Bonjour tout le monde. C'est un petit peu moins surprenant que ce qui s'est passé à Lévis la semaine dernière, avant que j'entre à la prédication. Il y a quelqu'un qui a eu un malaise tellement important qu'il a dû être transporté à l'hôpital en ambulance. Et on a cru un moment que on a cru un moment que qu'il allait trépasser, là. Et vraiment, ça a été très bouleversant pour l'Église qui s'est mise en prière immédiatement. Mais quand tu parles de moments très forts, de moments qui viennent, et je rappelais à l'Église pour qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais quand Dieu va venir nous chercher. On pense que la vie continue, que tout va se poursuivre, qu'on va aller à notre rencontre qui s'en vient, qui est cédulée, nos choses cédulées habituellement, mais on ne sait jamais quand est-ce que Dieu va dire c'est ton tour. Et comme dit le vieux chant, les ailes de la foi, es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Donc, on ne chantera pas, là, mais surtout pas moi. Mais voilà. Je tiens à louer le Seigneur, à remercier l'Église à chaque fois pour la grande responsabilité qu'on me confie de prêcher la parole. Merci à l'Église, aux anciens et à vous de me confier cette responsabilité-là. C'est tout un privilège et une grande responsabilité de le faire. Et qui demande toujours de faire confiance à ce que l'Esprit veut dire et non à nous-mêmes. Puis c'est toujours un peu, quand Marc m'a demandé sur quoi tu vas prêcher, je dis voici, je pense. Il dit ah, j'aime bien. C'est comme, hein, c'était comme. Mais j'ai remarqué que ça fait. La dernière fois où j'ai apporté la parole ici, c'était à l'Action de grâce canadienne et que je le fais encore à ce moment-ci de l'Action de grâce américaine. Donc, ou du moins durant ce long week-end, le vendredi fou et toutes ces choses-là là, qui occupent la pensée de beaucoup de monde. Et enfin, juste comme entrée en matière, je me disais, et parler de à quel point c'était un moment de l'action de grâce, un moment de reconnaissance, mais à quel point on devrait, oh, hey, je suis rendu là, hein? Je suis rendu là. Monsieur, monsieur, monsieur qui a 20 ans de... Excuse-moi, David. C'est ça. Il nous rappelait à quel point on doit être reconnaissant pour ceux qui ont passé avant nous et ceux qui sont encore là et qui servent. Puis je me dis, il y a un verset dans Hébreux 13 qui dit ça, hein, souvenez-vous de vos conducteurs, de ceux qui ont passé avant vous. Rappelez-vous de leur fin et comment ils ont été, imiter leur foi, imiter leur vécu. Et je me disais, ah, quelle grâce de pouvoir prendre des fois le temps de se rappeler de ceux qui ont été une influence importante dans notre marche chrétienne. Et de dire, merci Seigneur pour cette personne-là, merci. Je me souviens des rencontres jeunesse. Je m'en rappelle pareil. J'oublie ton nom, mais je me rappelle. Non, ça va, là, je le sais, là. Et je me souviens des rencontres jeunesse qu'on avait milieu des années 70 et fin des années 70, puis à quel point Dieu avait placé là des personnes qui étaient influentielles, qui ont eu une grande influence dans nos vies. Puis ne craignons pas de. Notre marche ne part pas avec nous. Elle s'appuie sur tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui nous ont qui ont été placés avant nous. Puis moi, je veux louer le Seigneur, puis remercier le Seigneur pour ça. Puis je vais juste prendre le temps de remercier une personne.
Pleurez là.
Merci. Hein. Merci. Merci. Et celui qui a toujours été avec toi aussi. Voilà, c'est fait. Ah, voilà. Dans Éphésiens 5, 1 à 2, je suis en train de faire réparer. On est dans le vintage, hein, et dans les choses, on retourne à ça, puis je suis en train de faire réparer ma table tournante et mon équipement, un amplificateur. Ben, ma chose. Pas tant. L'équipement de son. Et ça va tomber si ça tombe. Et l'équipement de son, puis le gars, il me dit, on avait acheté ça dans les années 90, puis la table tournante, elle nous a été donnée parce qu'à l'époque, c'était les CD qui sortaient. Donc, il dit, oh, prenez-la, je vous donne ça, ça vaut plus rien. Aujourd'hui, les tables tournantes, tout le monde se les arrache. Et je dis, bon, on a quelques vinyles à la maison et on se dit, oh, ça serait le fun de revenir au slow time, tu sais, plutôt que d'être toujours dans le fast puis d'écouter Endless sur Spotify puis qui finit plus des heures et des heures à pas avoir à tourner le disque. Mais là, on va écouter 13 minutes de chanson puis on va aller tourner le disque juste pour se donner une vitesse un peu plus réduite. Et là, le gars, il me dit, ah, oh, écoute, je voudrais que je répare les têtes qu'il y a là, les straps. Et là, il commence à me défiler au complet là, tous les détails de ce qu'il faut faire dans ça. Et je me rends compte que il décline toutes les choses qu'il y a à faire pour pouvoir arriver à refaire fonctionner cet appareil-là qui ne fonctionnait plus autant. Et je me dis, c'est donc pareil comme l'amour. C'est donc pareil comme l'amour de notre passage dans Éphésiens 5. Notre passage dans Éphésiens 5 nous amène à voir comment l'amour naît dans le cœur de Dieu. L'amour naît dans le cœur du Dieu trinitaire. Et on y parle là de Dieu, de Christ, du Saint-Esprit. Et devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés dans Éphésiens 5, 1 et 2. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et l'amour qu'on manifeste, et je vais vous montrer juste pour nous dire que on a tellement des fois des bons... Quels sont les exemples d'amour qu'on a aujourd'hui si ce n'est pas que des exemples qui sont tout aussi brisés que cette machine-là? On est allé se promener dans des sites archéologiques dans certains pays et on regarde les restes archéologiques de certains sites, puis on trouve ça magnifique, comment c'est beau. Mais c'est des squelettes. Comprenez-vous, c'est juste un extérieur, ça n'a pas de vie, c'est plus rien, mais on trouve ça beau pareil. C'est juste pour nous dire à quel point notre regard sur les choses... J'espère que ce n'est pas moi qui... les Canadiens ont compté. Pour nous dire à quel point notre regard sur les choses est meurtri. On trouve beau même ce qui est brisé. On trouve beau même ce qui est brisé. Et imaginez l'amour. Quel modèle on a de l'amour? On peut le recevoir de nos parents. On peut le recevoir de d'autres. Mais celui, le seul, qui sait vraiment quel est l'amour qu'on serait en mesure de devoir manifester, c'est son origine. C'est le Dieu trinitaire. C'est Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu qui l'a, et Dieu qui vit cet amour-là dans sa relation trinitaire. Et ça, ça nous dépasse. Cet élément-là qui est théologique nous dépasse. Dans le sens que c'est pas né uniquement, Dieu a pas appris à aimer parce qu'il est en relation avec nous. C'est devenu ça. Mais Dieu, et Jésus va le dire, Dieu est, et l'Écriture le dit, Dieu est amour. Dieu est amour. Et l'ensemble des Écritures, par la suite, nous démontre comment Dieu manifeste ça. Mais l'expérience qu'on en vit, qu'on en reçoit, même en devenant chrétien, il est souvent très brisé. Il est souvent très, très brisé. Un petit coup d'huile là, un petit fil qui a du vert de gris puis qui a besoin d'être enlevé pour mieux faire le contact qu'on a eu peut-être de nos parents qui ne nous ont pas donné la bonne chose à un certain moment. Et on reproduit, et on reproduit, puis on pense que c'est beau. On voit des exemples de gens qui aiment ou qui s'aiment, puis on trouve ça beau. Et pourtant, le seul exemple, le seul vrai paramètre, si je peux dire ça comme ça, avec lequel on devrait, sur lequel on devrait s'appuyer, c'est celui de Dieu qui aime dans sa source, dans sa réalité réelle, pleine. Comment réapprendre ça? Comment réapprendre ça? Comment, Seigneur, apprends-moi à aimer comme tu aimes, puis je ne sais pas ce que ça veut dire. Sinon, qu'en observant le modèle suprême de cet amour-là, lui-même, et manifesté en Christ et par le Saint-Esprit qui nous aime. Mais trop souvent, est-ce qu'on s'attarde à recevoir, à vivre cet amour-là de cette manière-là, ou est-ce que les modèles autour de nous sont plutôt ceux qui viennent nous troubler, qui viennent déranger, qui viennent, en fait, ouais, parce qu'on vit malheureusement... dans toutes sortes de brisements, dans toutes sortes de blessures, dans toutes sortes de murs qu'on se bâtit, qui font que l'amour de Dieu a de la difficulté à pénétrer. On a écouté longuement notre chaîne stéréo avec ses troubles. Et comme on dit chez nous, ça grichait, ça faisait des sons. Puis on endurait, comme on dit, mais c'était... On trouvait ça beau. On en venait à trouver ça beau. On parlait, vous avez entendu parler de l'histoire de la chapelle Sixtine, hein, vous connaissez la chapelle Sixtine à Rome. Hein, et on disait que il y a plusieurs années, on a fait une rénovation majeure de la chapelle Sixtine pour essayer de restaurer les peintures qui étaient là, de façon à pouvoir avec les siècles quand même, pouvoir leur redonner leur éclat premier. Et donc, les restaurateurs se sont mis à l'œuvre pour nettoyer, mais ils se sont rendus compte que les peintures... Tu ne fais pas ça avec du Vertel, il y a des produits autres. Donc, ils commencent souvent par des coins, par des espaces moins visibles, de façon à ce progressivement, ils se sont rendus compte que les couleurs étaient tellement éclatantes que c'était vraiment contrastant beaucoup avec ce que l'œil était habitué de voir. Ça contrastait beaucoup, mais c'est pas tant le fond que ce qui avait causé le changement. Le changement avait été causé par des siècles et des siècles de petits lampions allumés qui émanaient une toute petite fumée qui, en elle-même, toute seule, n'est pas dommageable, Mais tu en allumes peut-être, je ne sais pas combien il y en a, moi, dans la chapelle Sixtine. Là. Puis des fois, il y en a des plus grosses, plus chères. Il y en a, on sait, ceux qui étaient catholiques, vous le savez. Il y en a des plus petites qui coûtent moins cher pour les moins riches, puis les plus grosses, plus chères pour les plus riches, puis les prières plus grosses, j'imagine. Puis, mais la fumée, elle, elle monte, puis elle couvre, puis elle cache, puis elle cache. Puis les gens ne s'en rendent pas compte. C'est pas après un an que tu t'en rends compte, mais au bout de plusieurs années et de plusieurs... La fumée avait masqué. Et l'amour de Dieu devient comme ça aussi. Au fil des blessures, au fil des... Je veux dire un mot qu'on utilise, des bardassages. Au fil d'avoir été malmené, au fil d'avoir... Et ça, des fois, c'est à travers les générations, ça va dans nos vies, ça recule. L'amour qu'on peut exprimer ou qu'on voudrait pouvoir exprimer a changé de couleur et n'est plus le même. Et la seule façon par laquelle cet amour-là peut retrouver ses couleurs, c'est par un nettoyage. Un nettoyage que seul Dieu peut faire. Seul Dieu peut faire ce nettoyage-là. Et des fois, on se demande, et des fois, on se retrouve devant des situations, on est comme les mains liées, on se dit, pourquoi j'ai pas pu y dire? Ou pourquoi j'ai pas pu agir? Ou pourquoi j'ai pas pu le faire? Qu'est-ce qui m'empêche? Puis, et des fois, on se retrouve simplement comme bloqué dans l'expression de notre amour. Et c'est le point suivant dans ça. L'amour est origine dans la Trinité, mais non seulement ça, mais Dieu ne l'a pas seulement éprouvé, Dieu l'a agi. C'est qu'il a, dans son amour, donc l'amour, il est trinitaire, mais il est aussi action. C'est-à-dire que dans son amour, Dieu a réfléchi, a pensé, a idéé, un plan pour ramener l'humanité à lui, dans son amour. Et on a longtemps associé le plan de Dieu avec sa colère. On a longtemps associé le plan de Dieu avec tout cet élément-là. Et il y avait ça, il y a la colère de Dieu contre le péché, mais il y a l'amour de Dieu pour ceux qu'il veut ramener à lui. Car Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Et l'amour de Dieu agit. L'amour de Dieu se place en action. Et comment Dieu qui t'aime, Dieu qui nous aime, Dieu qui place cet amour-là en nous, comment veut-il nous voir l'agir? Comment veut-il nous voir l'agir? Et très souvent, bon, notre agir à nous se place, se situe dans du servir à l'Église, amener des choses et tout ça. Mais le texte nous parle d'un bien autre service, d'un tout autre service dans lequel l'amour est le plus fortement exprimé, que l'action de l'amour est le plus fortement exprimé. Et on le retrouve juste au verset qui précède. Juste au verset qui précède tout ça. Bien sûr que nos éditeurs placent les textes de façon pour les lire, à les lire plus aisément. Mais Paul va dire auparavant, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns les autres, réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et il dit « Devenez donc ». Le « donc » n'est pas lié à rien. « Devenez donc des imitateurs de Christ. » Et il nous montre là que la plus grande action que l'on peut porter par notre amour reste celle du pardon. Du pardon mutuel que l'on peut accorder. J'ai vécu beaucoup de pardon. J'ai reçu beaucoup de pardon. Et je rends grâce à Dieu pour la capacité que Dieu donne de pardonner
souvent et avec souffrance. Et il en reste tellement à venir aussi. Mais quand on y songe dans nos cœurs, à nous, y a-t-il des zones où c'est marqué, on circule en ville, hein, puis c'est difficile le stationnement, et c'est marqué P ou pas P. Est-ce que ça veut dire interdit de pardonner ou permis de pardonner entre telle heure et telle heure? Est-ce qu'il y a des zones dans nos vies qu'on interdit au pardon? Ou qu'il y a des moments où on est prêt? OK, entre 17h et 8-6h le matin, du lundi au mardi. Ou quelles sont mes zones à moi où je sentirais que probablement que Dieu m'invite. Et sûrement. Et comme Jean-François disait tout à l'heure, je veux. Ça me fait sourire en disant ton je veux tantôt. Alors, c'était affirmatif. Je veux que peut-être vous indique. T'as pas dit ça, hein? Je veux. Je veux. Hein? Y a-t-il des zones dans nos vies où il y a des espaces qu'on garde en dehors du pardon? Parce que ça nous a fait trop mal, parce que c'est trop profond, parce que ça nous a trop blessés et qu'on ne veut pas réouvrir ces plaies-là. On veut pas, on veut juste pas les réouvrir. Et on vit beaucoup avec ça, nous, les humains. On vit beaucoup avec ce type de plaies-là. Parfois, on pardonne juste trop vite. On a un livre qui s'intitule comme ça, hein? En français, ça serait quand pardonner puis quand ne pas pardonner, ou c'est ça, ça serait à peu près ça. Ben, on pardonne trop vite dans le sens que quand on pardonne trop vite, c'est que aimer. Ouais. Exactement, merci. Donc, pas pour. On va aller à fond, mais des fois, on pardonne tellement vite que c'est d'en débarrasser. Que c'est comme débarrasser. C'est comme prendre du stationnement sur le temps d'un autre. Mais est-ce qu'il y a des espaces comme ça dans mon cœur, dans ma vie, qui ont besoin d'être couverts par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, par le pardon de Dieu? Et où j'ai juste besoin de dire, Seigneur, je réalise que j'ai pas libéré ça, parce que tu priais, Jeanne, tout à l'heure. Puis je me suis dit, Jeanne a lu mon verset, c'est sûr. Tout était tellement, comme on dit, drette dedans. Mais est-ce que d'affronter parfois le défi d'aller vers le pardon ou de marcher la route du pardon n'est pas toujours facile. Parfois, si c'est moi qui dois le recevoir, il y a parfois de la honte. Il y a une route de honte dans laquelle il faut savoir marcher. Et parfois, il y a une route d'orgueil qu'il faut accepter de laisser tomber, de briser. Et surtout, et c'est un autre sujet, mais surtout parce qu'il n'y a pas aucun autre endroit sous le ciel qui a été donné par Dieu, par lequel nous pouvons recevoir autant de communion et de guérison que dans l'Église. L'Église, le corps de Christ, est l'outil par lequel ça arrive. Et si nous ne sommes plus capables d'offrir à nos frères, à nos sœurs, cet amour qui pardonne, qui accueille, qui agit, qui reçoit, nous ne sommes pas Église. J'ai reçu cela. Nous avons reçu cela. Cet amour qui accueille, qui reçoit cette grâce de la guérison dans l'Église. Frères et sœurs, on doit être ce corps-là qui veut expérimenter ça, le vivre et le donner dans l'accueil. Et faisons cela. Parce qu'il n'y a pas d'endroit sur terre, parce que le reste des endroits sur terre vont le faire de manière humaine et vont le faire et ne sont pas là pour nous construire. Les valeurs de ce monde ne sont pas là pour vous appuyer dans votre démarche chrétienne, ça c'est sûr. Donc, où est-ce qu'on va le trouver, si ce n'est ici? Mais souvent, on va se réfugier, on a un peu peur, on n'ouvrira pas nos panneaux, là. On ne veut pas se montrer faible. Et quand j'étais jeune, Jesse, t'es déjà trop vieux. Quand j'étais jeune, on chantait un chant dans le groupe qui disait « Qu'il est bon de pouvoir dire je suis faible et de l'amour de nos frères, de nos sœurs à être couvert. » Quel beau chant. Un amour donc qui naît le cœur de Dieu, qui est trinitaire, qu'on ne peut pas trouver ailleurs, qu'on ne peut pas modeler ailleurs que là, et qui vient réparer le nôtre. Un amour qui agit, mais qui agit principalement, pas uniquement parce qu'on donne du pain, puis que c'est bon, puis que ça nous fait du bien, qu'on fait les bonnes choses, mais qui va dans la relationnelle et qui offre accueil et pardon. Pensons, et j'ajoute ça, pensons au père du fils prodigue qui accueille de loin. Et ces mots-là dans le verset là, sont forts. Le fils n'est pas arrivé puis il a dit, « Papa, j'ai fait renverser les forteresses puis j'ai compris. Je viens, acceptes-tu de me pardonner? » Le père le voit de loin. Et de loin, il l'accueille, il le reçoit et il prépare. Ça, c'est l'amour du cœur de Dieu. Est-ce qu'on est capable de ça? Est-ce que je suis capable de ça? Je ne sais pas. Mais mon modèle devrait être ça. Mon modèle devrait être ça, n'est-ce pas? Notre modèle devrait être ça. Je suis convaincu que le gars qui répare ma chaîne stéréo, il a l'affiche, puis il se fie là-dessus, puis ça va être probablement bien réparé. Mais s'il me l'avait donné, ça gricherait encore. Il sait sur quoi se fier. Dernière chose dans notre texte de Éphésiens 5, qui qualifie l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu, donc, vient de son cœur, agit, mais elle agit, et c'est là le défi, c'est que l'amour de Dieu, il est extrême. Il est extrême. Il est allé jusqu'à donner son Fils. L'amour de Dieu, il est extrême. Et parfois, il peut demander de nous quelque chose qui nous semble extrême. Et est-ce que je suis prêt à me présenter devant lui et à dire, Seigneur, j'accepte ton extrême. J'accepte ton extrême. On est en train de réfléchir ensemble, Lise et moi. Puis, voyez-vous, ça, c'est une autre chose. Juste ça, c'est une autre chose. Parce que le Seigneur nous a amenés à un point où le ministère, on le construit ensemble. Et on écoute le Saint-Esprit ensemble. Puis Dieu me défie de donner à Lise tout l'espace pour pouvoir être la voix de l'Esprit dans les choses qu'il présente. Un ouvrier, ça travaille tout seul. Ça a ses idées. Mais Dieu me dit, non, tu dois maintenant écouter Lise et l'Esprit qui est en elle. Abandonne. Ouvre tes mains. Laisse aller. Et alors qu'on écoute l'Esprit vers ce vers quoi il nous dirige et qu'on voudrait placer des agendas et tout ça, et une structure, et placer les choses en place, dater, puis échéancier les choses. On a fait ça hier avec Renversons les forteresses, où on discute d'une vision stratégique avec eux. Ils m'ont demandé de les guider dans ce processus-là. Et je leur ai dit, j'ai dit, est-ce qu'on est prêt à rêver autant qu'on veut, mais ensuite dire, Saint-Esprit, j'ouvre les mains et j'abandonne mes projets, mon agenda, ma planif et rentre là-dedans pour faire ce que tu veux. Je veux être attentif à ta voix qui va me parler. Et elle peut être extrême. Dieu n'a pas lésiné du tout en envoyant son Fils. Dieu n'a pas lésiné pour me briser. Dieu ne lésine pas. T'écoutes pas? Je vais te faire comprendre. Dieu n'hésite pas. Dieu a des moyens extrêmes. Et Dieu a des moyens sans limite aussi. Ce n'est pas toujours négatif, là. Prenons-le pas comme ça, là. Les moyens extrêmes de Dieu sont des défis aussi sans limite. Et il va nous dire, es-tu prêt à... ça va être extrême, mais ça va être aussi sans limite. En ce sens que je vais t'offrir au-delà de tout ce que tu rêves, de tout ce que tu imagines, même beaucoup plus loin. Donc, lâche, prise, abandonne, viens. Mais c'est tellement des fois plus simple de marcher simplement dans notre marche chrétienne, de venir entendre le message ici, un autre prédicateur. On a plusieurs ici, on a plusieurs ailleurs. Les choses se disent et se répètent. Parfois, on les a peut-être déjà entendues de d'autres manières. Mais quelle action je prends avec ça? Quelle action je prends aujourd'hui avec ça, sans savoir si je vais me relever de ma chaise tout à l'heure. Comme ce monsieur. Il est en, comme dirait monsieur, il est en bonne santé. Lui aussi, son pied, il a pas assez proche, mais il est en bonne santé aussi. Mais est-ce que Et je ne sais pas ça. Et personne d'entre nous sait ça. Et on est jeune et on s'imagine que. Et des fois, on vieillit et on s'imagine que c'est plus proche pour nous. Puis on envoie des plus jeunes qui partent avant nous. On ne sait pas rien de ça. Mais est-ce qu'on veut quand même dire, Seigneur, à ce point-ci de ma vie, je suis encore prêt à te dire, Seigneur, j'accueille ton amour, j'accueille cet amour et aide-moi. Guide-moi pour aller vers ceux que tu veux que j'accueille comme le père du fils prodigue, mais aide-moi aussi, peut-être que je suis le fils prodigue de quelqu'un, peut-être que j'ai besoin du pardon de quelqu'un, et peut-être que tu veux me briser un point tel qui va être extrême, mais aussi que tu veux m'amener à quelque chose de plus grand encore qui est sans limite. Et est-ce qu'on veut le plus de Dieu? Je disais souvent comme exemple les 10 lépreux, c'est ça? C'est les 10 lépreux, je pense, qui ont été guéris. Je me souviens plus de l'histoire. Hein? Exactement. Les 10 s'en vont, les 10, Jésus les guérit, et les 10 partent et ils sont guéris. Et il y en a un seul qui revient pour dire merci, pour reconnaître Jésus. Et je crois que celui-là a reçu une onction supplémentaire. Est-ce qu'on veut le plus de Dieu? Le plus de son amour? Ou est-ce qu'on veut... On peut se contenter. On peut être juste content. On peut être juste satisfait. Mais la foi chrétienne telle que on l'annonce dans l'Alliance, telle qu'on veut la vivre. Et ça devrait être comme ça pour tout le monde. Hein? Aspire à plus. Aspire à plus. Mon réparateur me dit que ça allait probablement être bon pour un autre 20 ans, cette chaîne stéréo-là. Il dit, c'est les plus solides, c'est les meilleurs. Et lui, il fait venir les pièces d'origine, puis il y a tout ce qu'il faut pour bien nettoyer. Dieu nous offre ça aussi. Dieu est la pièce d'origine. Dieu a tout ce qu'il faut pour bien nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Sommes-nous là aujourd'hui? Avons-nous du nettoyage à faire? Voulons-nous recevoir son amour qui vient couvrir d'un fois toutes nos fautes qui peuvent nous embarrasser, nous couvrir de honte, nous éloigner des autres, nous séparer de la communauté de foi par nos propres choix? Quand c'est uniquement là que l'on peut trouver la grâce du pardon, de l'accueil et de l'amour. Prions ensemble, OK? Si vous vous trouvez dans cette occasion-là, dans ce choix-là, dans ce carrefour-là de votre vie, simplement vous placer devant Dieu, lui dire à lui, nous, on ne voit pas les cœurs, on ne lit pas ça. Mais Dieu t'aime, toi. Chacun d'entre nous, puis il est prêt à juste agir maintenant dans ton cœur, dans ta vie, à le faire maintenant. Seigneur, réaliser à quel point ton amour trinitaire est vaste et grand, awesome, merveilleux, incroyable, insaisissable, mais tout ça nous dépasse. Et que les modèles terrestres que nous avons reçus aussi, généreux, chaleureux, bons, aimables, compatissants qu'ils pouvaient être, ne sont jamais à la hauteur. Et nous nous sommes retrouvés souvent, et trop souvent, et bien maintenant, Seigneur Dieu, brisés dans nos cœurs, dans nos vies, à cause souvent de nos choix, bien sûr, mais à cause de ces manques-là. Que les modèles que nous recevons ne sont pas parfaits et ne le seront jamais. Aide-nous, aide-moi à modeler. À te modeler, Père. À te modeler, Jésus-Christ. À te modeler, Saint-Esprit. Et que cet amour-là soit actif et particulièrement alors que tu m'invites à aller vers mon frère, ma sœur, dans le pardon, dans la restauration, dans la réconciliation qui unit le corps, la famille, ici, seul lieu, vraiment, sur terre, où nous pouvons trouver cette guérison, cette restauration. Il ne devrait pas y avoir de place pour la mesquinerie, pour le jugement, pour l'orgueil, la division dans l'Église. Et puis, Seigneur, permets-moi d'abandonner au point de vivre à l'extrême. Je ne suis pas un pratiquant de sport extrême. Pas parce que je suis peureux. C'est juste que... Mais je sais une chose, Seigneur, c'est que te servir à l'extrême m'attire. Obéir dans ces endroits-là, à l'extrême. Comme... ce jeune homme dont on a appris cette semaine, Père, qui s'est rendu dans une île où il était interdit d'aller par le gouvernement. Il est allé pour annoncer ton nom. et il a trouvé la mort. Il l'avait écrit avant dans son journal qu'il est fort probable qu'il y trouverait la mort. Les journaux de ce monde trouvent que c'est fou. Il est allé à l'extrême. Il est allé à l'extrême. Et en même temps, l'extrême est sans limite. Et c'est ainsi que tu veux, Seigneur Dieu, nous bénir. Que tu veux nous réserver à nous, à ceux qui veulent marcher dans l'extrême, des grâces, des bénédictions, des charismes, des dons, des présents qui sont sans limite. Et c'est ce vers quoi on veut tendre, aspirer, être assoiffé de. Et fait que notre soif, notre faim, ne s'étanche jamais. Par Jésus-Christ, nous prions. Amen.